My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Les deux premiers Grands Prix de Formule 1 ont offert leur verdict. Un verdict qui, au final, n'est pas très éloigné de la vérité de la saison dernière. Max Verstappen continue son travail de démolition de la concurrence, les Ferrari sont en embuscade, Mercedes galère toujours autant à comprendre leur voiture, et les écuries de fond de grille sont sensiblement les mêmes, à l'exception d'Alpine, bien entendu. Mais malgré tout, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'avoir rarement connu un début de saison aussi animé. Forcément, la Silly Season a commencé très fort grâce à Lewis Hamilton. Il y a aussi l'affaire Christian Horner, qui prend toute la place médiatique. Et également la sensation Oli Berman, qui a réalisé un Grand Prix exceptionnel pour ses grands débuts. Tous ces événements m'ont donné envie de faire une sorte de bilan des deux premiers Grands Prix. Parce qu'il y a également pas mal de choses qui se passent à d'autres endroits de la grille qui méritent davantage de lumière. Les premiers points de A cette saison, contre toute attente, la déception d'Daniel Ricciardo, ou encore quelques informations sur la Silly Season qui vont probablement dynamiter ces prochaines semaines. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous ai sélectionné 10 choses essentielles à retenir de ces deux premiers Grands Prix. Et sans plus attendre, on est parti. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'on a une hiérarchie très claire. À mes yeux, 5 écuries se distinguent considérablement par rapport au reste de la grille. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston Martin. C'est bien simple, je vous invite à regarder les pilotes qui sont arrivés en Q3 à Bahreïn puis en Arabie Saoudite. Entre ces deux Grands Prix, une seule personne manque à l'appel, Carlos Sainz. Et comme vous le savez, le pauvre a malheureusement dû se faire opérer de l'appendicite. Il était présent dans le paddock dès le lendemain de l'opération, donc ça c'est super, mais s'il avait été apte à participer à la séance de qualification, on peut assumer sans trop se risquer qu'il aurait réussi à atteindre la Q3. Ça se reflète également en course, puisque ce sont les seules écuries qui ont réussi à marquer des points sur les deux premiers Grands Prix. Donc oui, je trouve qu'il y a pour l'instant un vrai écart entre ces 5-là et le reste de la grille. Maintenant, est-ce que cette hiérarchie va réussir à se maintenir sur les prochaines courses? Il y aura certainement des évolutions, même au sein du top 5. Certaines écuries seront plus performantes sur d'autres types de circuits. Et je pense qu'il y aura déjà des différences dès le Grand Prix d'Australie. Mais pour le moment, ça me semble évident qu'il y a un vrai écart entre le top 5 et le reste de la grille. Et des écuries comme Williams, Haas ou Alpine vont devoir travailler très dur pour rattraper ce retard. Du côté du fond de grille d'ailleurs, il y a une écurie en particulier qui a beaucoup déçu. Vous l'avez deviné, je parle bien sûr d'Alpine. Alors on pouvait s'attendre à ce qu'elle ne joue pas les premiers rôles. Les tests d'avant-saison ont été absolument catastrophiques, ils procèdent en ce moment même à une grosse restructuration, et globalement, l'écurie est en reconstruction totale, avec 2026 en ligne de mire. Mais tout de même, la chute est vertigineuse, ils sont 10e du championnat. Ça doit être atroce pour les fans de l'écurie, parce qu'en l'espace de 2 saisons, tu passes de la 4e à la 6e place, puis pour le moment à la 10e place cette saison. Le chemin de la rédemption va être très long pour Alpine. Ça va passer évidemment par de grosses évolutions, et surtout, ils doivent retrouver un minimum de calme dans l'écurie. Mais une chose est sûre, il va falloir s'armer de patience. Au contraire d'Alpine, il y a une écurie qui a l'air d'aller beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu. Je vous parle de Haas, bien sûr, qui a réussi à marquer un point totalement inespéré en Arabie Saoudite. Ça, franchement, personne ne l'avait vu venir. Bon, après, ils ont marqué un point en 2 courses. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais compte tenu de leur déclaration ultra pessimiste au début de la saison, il y a franchement des motifs de satisfaction. Les deux pilotes sont passés en Q2 sur les 2 Grands Prix, et Hülkenberg a même réussi à passer en Q3 à Bahreïn. Et évidemment, ce tout petit point décroché est une belle récompense, et à la fin de la saison, ça pourrait faire la différence. Soyons lucides, As ne va pas jouer grand-chose cette saison. Et s'ils font mieux que 10e, c'est déjà exceptionnel. Mais quoi qu'il arrive, on peut vraiment saluer le travail de As en ce début de saison, parce qu'ils font clairement mieux que leurs propres prédictions. Il y a un pilote sur la grille qui va suivre très attentivement la progression de As cette saison. Je vous parle de la star du week-end, Oli Berman. Il fait la pole position en F2, il est appelé en catastrophe pour remplacer Carlos Sainz, il passe à un rien de se qualifier en Q3, battu très légèrement par Lewis Hamilton, et au final, il termine 7ème du Grand Prix, alors qu'il n'avait jamais roulé avec cette monoplace, et qu'il n'avait qu'une séance de qualification et une séance d'essai libre dans les gants. Alors bien entendu, il faut prendre en compte qu'il pilote la deuxième meilleure voiture du plateau, évidemment. Mais disons-le, réussir cette performance à son âge, avec toute la pression qui entoure Ferrari, c'est franchement fort. Pour moi, cette prestation ne fait que renforcer l'idée qu'il est le favori pour piloter chez As en 2024. Vous connaissez les liens très forts entre Ferrari et As. Berman a déjà 6 séances d'essai libre de prévu avec eux cette saison, donc l'intérêt est vraiment réel. S'il réussit une bonne saison en F2, je pense que ça ne fait aucun doute qu'il sera promu là-bas. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qu'il a fait met en valeur le niveau de la Formule 2. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le niveau des pilotes dernièrement, mais je pense que cette année, il y a beaucoup de jeunes pilotes qui seraient capables de monter en Formule 1 et d'être performants. Berman, lui, a totalement saisi la chance qu'on lui a offerte, et ça ne fait quasiment aucun doute que son avenir sera en Formule 1 ces prochaines années. Berman est devenu le troisième plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à disputer un Grand Prix. Le plus jeune, vous le connaissez, c'est Max Verstappen. Mais depuis ses jeunes années en F1, le pilote néerlandais a bien changé. Il compte désormais 56 victoires et 100 podiums dans la discipline. Et s'il maintient ce niveau de performance sur l'ensemble de la saison, je pense que ça ne devrait pas s'arrêter là. Parce que oui, au bout de 2 Grands Prix seulement, Max Verstappen semble déjà totalement intouchable. Pérez est très loin derrière, Ferrari n'a pas encore les moyens de se battre avec lui, et Mercedes, McLaren et Aston Martin, j'en parle même pas. Verstappen évolue dans un autre univers. Il faut reconnaître, tout simplement, que ce pilote est absolument monstrueux. Sergio Pérez lui fait un très bon début de saison, mais on s'aperçoit qu'il ne lui arrive pas à la cheville. Compte tenu de tout ce qui se passe en coulisses, je trouve ses résultats d'autant plus impressionnants. Parce que oui les amis, chez Red Bull, c'est un vrai panier de crabes. J'ai l'impression que chaque seconde qui passe, il y a une nouvelle bombe qui tombe. Pour résumer, Christian Horner aurait été proche d'être viré, mais il serait soutenu par le propriétaire thaïlandais de l'équipe, qui possède le plus de parts, mais au final j'ai vu passer une information comme quoi il aimerait bien se séparer de lui maintenant. Helmut Marko aurait également été proche de se faire licencier par Red Bull. Et si Helmut Marko part, l'avenir de Verstappen est très incertain. C'est une situation qui pourrait déstabiliser n'importe quelle écurie. Mais sur le plan sportif, Red Bull reste solide. Maintenant, c'est évident que cette situation doit connaître son dénouement, parce que ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions. On espère donc que cette histoire va arriver à sa conclusion le plus vite possible, pour que le sportif soit à nouveau au premier plan. En parlant de sportif, j'aimerais me pencher sur le cas de Ferrari. Red Bull mis à part, et comme prévu, c'est l'écurie de Fred Vasseur qui a laissé la meilleure impression globale. Et oui, la voiture est vraiment au-dessus de tout le reste du plateau, et pour eux ça fait 2 podiums en 2 courses. Donc franchement, tous les échos positifs d'avant-saison se sont révélés réalité. Maintenant, Charles Leclerc et Carlos Sainz n'en ont pas grand-chose à faire de finir 3e. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir battre Red Bull. Ce sera évidemment très compliqué, parce que la RB20 semble avoir un vrai coup d'avance sur tout le monde. C'est évident qu'il y a énormément de défis à relever pour Fred Vasseur, mais je pense que les tifosi peuvent se réjouir d'avoir un projet qui semble vraiment solide. Aujourd'hui, si je devais mettre une pièce sur une écurie qui doit faire tomber Red Bull, ce serait sur eux. Les rattraper est un travail titanesque, mais on va suivre très attentivement la course au développement, parce qu'ils ont une base extrêmement solide sur laquelle travailler. La Scuderia a réussi à se placer comme dauphin de Red Bull, mais derrière eux, c'est beaucoup plus serré. Entre McLaren, Mercedes et Aston Martin, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment une qui est sortie du lot. Aston Martin me semble un tout petit peu derrière, mais ils peuvent compter sur un Fernando Alonso très performant en début de saison. Piastri était excellent à Jeddah aussi, Russell a l'air en forme, et aujourd'hui je suis incapable de vous dire quelle sera la meilleure monoplace ces prochaines semaines. Je pense que dans le lot, c'est McLaren qui m'a le plus surpris. Andrea Stella avait indiqué que Sakhir et Jeddah ne sont pas vraiment des tracés faits pour sa voiture. Et pourtant, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à maximiser leurs résultats. Je m'attendais à voir Mercedes un tout petit peu plus proche de Ferrari. Et si l'on en croit Lewis Hamilton, les prochaines courses devraient être encore plus compliquées. Quant à Aston Martin, Lance Stroll les a un petit peu laissés tomber à Jeddah. Et si la dynamique entre lui et Alonso est similaire à celle de l'an dernier, lui et son équipe pourraient passer une saison assez compliquée une nouvelle fois. Quoi qu'il en soit, cette lutte entre ces 3 écuries sera super intéressante à suivre. Je suis très curieux de voir qui va remporter la course au développement dans ce groupe-là. Ferrari a pris un tout petit peu d'avance sur les 2 premiers Grands Prix, et l'objectif sera de les rattraper le plus vite possible. On passe à l'avant-dernier point de cette vidéo, et on va faire un virage complet vers le fond de grille. J'aimerais vous parler des Racing Bulls et de Steak F1 Team, deux écuries qui arborent une identité nouvelle, mais qui connaissent des résultats ô combien décevants. L'équipe la plus frustrante entre les deux, à mon avis, c'est sûrement RB. Souvenez-vous, on les imaginait s'inviter dans le milieu de tableau dès le début de saison. On a beaucoup parlé des liens renforcés avec Red Bull, du fait qu'ils allaient pouvoir acheter des pièces de la RB19, l'une des meilleures voitures de l'histoire, mais comme quoi, ça ne fait pas tout. Je vous disais il y a quelques semaines qu'ils sont encore aux prémices de leur projet. D'accord, ils vont bouger dans les bureaux de Red Bull, mais ça va s'opérer à la fin de l'année uniquement. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de changer, et honnêtement, on peut espérer un vrai gain de performance beaucoup plus tard cette saison. Ça, c'est ce que dit Laurent Méquies, et je suis plutôt d'accord avec lui. À mon avis, il y avait juste trop de hype autour d'eux. Mais le plus décevant chez eux, c'est sans doute Daniel Ricciardo. Le pilote australien n'est pas au niveau du Tsunoda en ce début de saison, et c'est quand même quelque chose de surprenant pour quelqu'un avec ce palmarès, et surtout, qui vise le siège de Sergio Pérez. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce qu'il y aura une vidéo qui portera là-dessus très prochainement, mais évidemment, la dynamique des deux pilotes sera l'une des clés du succès de RB cette saison. L'écurie Sauber, quant à elle, est toujours aussi mauvaise. Je vais être méchant, mais on a l'impression qu'ils sont là juste pour faire de la pub à leur sponsor avant l'arrivée d'Audi. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'Audi a officiellement confirmé qu'ils vont acheter 100% de l'écurie à partir de 2026. En vérité, c'est une information qui avait déjà fuité il y a quelques mois. Mais au vu des doutes qui entouraient leur arrivée en Formule 1, c'est une très bonne chose. J'aimerais aussi avoir un mot rapide sur Williams, qui n'a pas franchement impressionné en ce début de saison, mais qui savait pertinemment que ce serait très compliqué de marquer des points sur ces deux circuits. Il y a quelques signaux positifs de leur côté. Alex Albon, par exemple, a fait P11 à Jeddah, et c'est sans doute le meilleur résultat qu'ils pouvaient espérer. Pour eux, c'est l'Australie qui est le vrai test. Et là-bas, ils espèrent débloquer un petit peu plus de potentiel. La dernière chose dont je voudrais vous parler, les amis, c'est que la Silly Season semble battre son plein. Christian Horner s'est réuni avec Flavio Briatore, le manager de Fernando Alonso. On a vu le père de Carlos Sainz sortir de l'hospitalité Mercedes. Oli Berman, lui, est arrivé comme une fusée dans les discussions pour 2025. Et bien évidemment, Max Verstappen pourrait rejoindre Mercedes si la situation chez Red Bull se détériore. Il y a eu énormément de blabla de tous les côtés. Et ce que j'attends personnellement, c'est que toutes ces discussions se transforment en transferts réels. Avec autant de pilotes en fin de contrat, ce sera assurément un très gros point d'intérêt ces prochaines semaines. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi en commentaire vos impressions sur ce début de saison, s'il y a des choses qui vous ont choqué, surpris, étonné peut-être. Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.